Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs articles d'Africa Press. On est le 6 juin 2025 et ça nous donne un aperçu assez varié de ce qui se passe sur le continent et même un peu au-delà.
Oui, bonjour. Un paysage effectivement contrasté avec des dynamiques sécuritaires, politiques, diplomatiques, assez complexes.
C'est ça. L'idée, c'est de décrypter ensemble les points clés. On va parler sécurité au Sahel, enfin au Bénin surtout, politique en RDC, relations internationales un peu tendues, et puis ces questions d'aide au développement. On analyse ça ?
Allons-y.
Alors, commençons par le Bénin. La situation sécuritaire là-bas, elle semble vraiment se dégrader, surtout dans le nord, près du Burkina Faso.
Oui, les attaques djihadistes s'intensifient, c'est clair. Il y a eu des pertes militaires assez lourdes en début d'année, janvier, avril. On parle de dizaines de morts.
Et donc, l'armée a réagi. Nouveau chef pour l'opération Mirador, le colonel André Dokoui Fofo. Apparemment, un homme rigoureux qui connaît bien le terrain. C'est un signe d'urgence, non ?
Ah oui, plus qu'un signe. C'est vraiment une nécessité. La pression est énorme, il faut adapter la stratégie. Et cette nomination, juste après une autre attaque à Tanogou.
Encore une ?
Ouais. Ça montre bien l'urgence. L'objectif, c'est clair. Redonner confiance, améliorer la coordination, le renseignement. Il était numéro 2 de la garde nationale, donc il connaît les rouages.
D'accord. Et pendant que ça bouge sur le terrain au Bénin, changement aussi du côté des partenaires. L'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Nouveau chef, le lieutenant général Dagvin Anderson. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le bruit de fond là. Cette histoire de fusion possible avec l'UCOM, le commandement européen.
Exactement. Et le timing pose question. Ces discussions, confirmées par le général sortant Langley lui-même, parlent de rationaliser les coûts.
Bon. Oui, l'argument économique classique.
Voilà. Mais au-delà de ça, ça pourrait signaler un changement de regard stratégique américain sur l'Afrique. Fusionner avec l'Europe, même partiellement.
Ça envoie quel message aux Africains ?
Potentiellement un message de désengagement relatif, quoi. Surtout à un moment où la Russie, la Chine sont de plus en plus présentes. Pour un pays comme le Bénin, qui est en première ligne, c'est crucial de savoir sur quel soutien compter.
Clairement. Passons maintenant à des tensions plus directes. Le décret de Donald Trump qui interdit l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays, dont 7 Africains.
Oui, le Tchad, Congo-Brazza, Guinée équatoriale, Érythrée, Libye, Somalie, Soudan. La justification officielle, c'est terrorisme, problème de visa dépassé, de réadmission des expulsés.
Et la réaction du Tchad ?
Assez vive, non ?
Immédiate.
Suspension des visas pour les Américains. Le président Déby a dit « le Tchad a sa dignité ». C'est fort comme message.
Et l'ONU ?
L'ONU s'inquiète, oui. Volker Türk part d'une mesure large et discriminatoire, contraire au droit international, avec un risque de stigmatisation. Trump a laissé entendre que ça pourrait changer si les pays coopèrent plus.
Une forme de pression diplomatique, en somme.
On peut le voir comme ça, oui. Assez direct.
Bon, changeons de registre. Un peu d'apaisement, peut-être. En RDC, une rencontre Tshisekedi-Fayulu. Après plus de 5 ans de silence radio, quoi.
C'est un événement, oui. Très marquant. C'est Fayulu qui a demandé à le voir, en plus.
Ah oui, voilà. Et ils ont parlé de quoi ?
De la crise sécuritaire dans l'Est, évidemment, sujet incontournable, et puis de cette initiative de dialogue national portée par les églises catholiques et protestantes.
Et Fayulu, il est prêt à entrer au gouvernement ?
Pas sans condition. Il maintient qu'il faut d'abord un dialogue inclusif. Il a cette phrase « Celui qui refuse le dialogue n'est pas un patriote ». Donc, la porte entre-ouverte, on va dire. C'est déjà un pas, cette rencontre au Palais de la Nation. Une possible décrispation.
On verra ce que ça donne. Dernier point, l'Ouganda et la Banque mondiale. Un autre type de tension, là.
Oui, la Banque mondiale qui reprend ses financements, alors qu'elle les avait suspendus en août 2023, suite à cette loi anti-homosexualité très dure.
Avec des peines très lourdes, peine de mort même dans certains cas. Comment ils justifient ça, la Banque mondiale ?
Ils disent avoir mis en place des mesures suffisantes pour atténuer les risques liés à cette loi dans le cadre de leur projet. C'est une approche pragmatique, on peut dire. L'Ouganda est un gros bénéficiaire de l'aide.
Pragmatique. Mais ça met en lumière un sacré dilemme, non ?
Complètement. Entre les conditions des bailleurs sur les droits humains et la défense de la souveraineté des valeurs culturelles par certains États. C'est un débat qui revient sans cesse et pas qu'en Ouganda.
Alors, si on essaye de faire le lien entre tout ça, on voit des États africains qui doivent gérer une insécurité qui monte, tout en composant avec des relations internationales compliquées, changeantes.
C'est exactement ça. Des tensions avec les partenaires, des désaccords sur des principes fondamentaux avec les bailleurs, et en même temps des défis internes énormes.
La sécurité au Bénin, la politique en RDC. Tout est lié en fait. Les enjeux locaux et la géopolitique globale.
Absolument. Et ces exemples montrent bien cette interconnexion, parfois conflictuelle, et les divergences profondes sur certaines valeurs dites universelles.
Du coup, ça amène une question pour finir. Une réflexion peut-être. Si les appuis extérieurs sont fluctuants, et si les divisions internes persistent, comment les nations africaines peuvent-elles construire leurs propres solutions ?
Des solutions durables, endogènes, qui répondent aux besoins des gens, tout en naviguant dans ce monde qui bouge tout le temps.
C'est la question essentielle, en effet. Vaste programme. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.